50 minutes, j'aurais mieux d'être inscrit
convenablement. Voilà donc moi je vais vous parler l'aspect d'un la vision d'un éditeur, mais aussi d'un chercheur qui publie ses articles. Et donc je vais essayer de vous parler au mieux des bonnes pratiques de publication, et je mettrai aussi en évidence quelques moins bonnes pratiques. Et dans les moins bonnes, surtout, je vais parler de la notion d'éthique de publication scientifique. Donc la première partie de ma présentation va porter sur comment structurer son article. Donc il y aura 17 slides, comme on dit, et puis alors les règles d'éthique. Il y en a beaucoup, mais je passerai ça assez rapidement en revue avec des exemples assez frappants de non-respect d'éthique scientifique, par exemple. Donc effectivement, le non-respect de l'éthique scientifique peut être attribué au fait que les fraudes dans le domaine académique sont attribuables donc à une certaine tendance des scientifiques à vouloir se positionner comme les meilleurs dans leur domaine et avoir une notoriété. Et aussi, finalement, au sein des universités, on est un tout petit peu poussé à booster notre université et à se positionner parmi les meilleures universités. Donc on est poussé réellement à publier des articles par nos autorités, souvent. Ce qui est bien, mais qui peut aussi parfois nous pousser à publier un peu de manière pas nécessairement bien pensée ou pas trop éthique. Et les pressions financières, par exemple, si vous sollicitez de l'argent pour votre laboratoire ou si vous pour un projet scientifique, au FNRS, par exemple, on regardera votre CV, on regardera si vous avez beaucoup de publications, etc., dans des domaines, et vous aurez beaucoup plus de chances d'avoir du financement si vous avez un CV important avec de nombreuses publications scientifiques. Donc on aurait tendance peut-être à les éparpiller, ces publications, parfois à faire des doublons, etc., ce qui n'est pas recommandable. L'appât du gain, il y a parfois des salaires qui peuvent bénéficier d'une publication. Dans des pays comme la Chine, par exemple, si vous publiez dans Nature, eh bien vous avez un salaire quasi à vie. Enfin, non, pas à vie, mais votre année est payée, quoi, en fait. Si vous publiez dans une revue internationale, vous avez un bonus par mois de votre salaire, en Chine, par exemple. Donc, vous voyez qu'on peut, là, vraiment s'orienter vers des comportements de parfois publish or perish. C'est-à-dire, publie ou si tu ne publies pas, tu péris. Donc, il faut faire là la part des choses. Et ce n'est pas nécessairement très positif de tenter d'avoir éventuellement aussi des promotions. C'est quand même lié. Bon, en général, on est promu dans les universités en fonction parfois du nombre de publications, pas nécessairement de la qualité. En fait, pour pouvoir être promu, il faut avoir le nombre et la qualité. OK, donc là. Mais malheureusement, parfois, c'est souvent le nombre qui l'emporte. Et puis, l'ère de l'électronique permet aussi très facilement, comme on va avoir des exemples après, de tricher et d'inventer des résultats ou de faire des copier-coller. Donc, la structure d'un article, vous avez déjà probablement eu l'occasion de vous pencher sur la rédaction d'un article, si ce n'est votre mémoire de fin d'études. Bien sûr, il y a le titre, puis les différents auteurs, le résumé, les mots-clés, le texte principal, qui est le cœur de votre travail, où vous devrez développer de manière très classique l'introduction de la méthode de discussion, qu'on va voir tout ça ensemble. Donc, ceci doit être aussi facile à indexer, justement par les moteurs de recherche. Et donc le sujet, le titre en tout cas, doit être le plus alléchant, le plus attractif possible, et tant qu'à faire, complet, et qui corresponde correctement au contenu de votre article. Très souvent, le titre ne correspond pas, enfin très souvent, non, il arrive que le titre soit beaucoup plus élogieux que ce qui se trouve dans le contenu de l'article. Et ça, on peut se faire taper sur les doigts, du moins par les référés. Donc soyez quand même humble, modeste, et n'essayez pas de quand même. Vous pouvez mettre des titres attractifs avec des mots-clés attractifs, comme on va le voir, mais n'exagérez quand même pas trop. Comme on dit, ne soyez pas trop stouffeur ici à Bruxelles. Comme on dit. Donc soyez aussi concis. Si vous pouvez écrire un article avec un certain nombre de mots, n mots, ne tentez pas de vouloir diluer ou n plus 1, parce que les éditeurs, comme je suis effectivement éditeur d'une revue, éditeur, oui, je vais vous en parler tout à l'heure. On a des consignes de la part d'Elsevier de minimiser le nombre de pages, et donc on va être assez strict sur ce nombre de pages que l'on reçoit. D'ailleurs, les référés aussi n'aimeront pas à parce qu'ils doivent souvent imprimer, la plupart des lecteurs impriment, et puis ils lisent l'article chez eux. S'ils doivent imprimer 40 pages, ça ne leur fait pas plaisir, hein, donc ils vont avoir tendance à le rejeter. Donc soyez concis, clair, pas trop de figures. Il y a des articles qui n'autorisent que 5-6 figures par article, d'autres 10. Donc faites attention à ne pas mettre trop de figures, et trop de tableaux non plus. Donc voilà, moi je suis donc, comme on l'a dit tout à l'heure, je suis éditeur d'une revue scientifique, éditeur en chef. Je partage ce travail que je fais déjà depuis 16 ans à peu près pour cette revue qui s'appelle Talanta, c'est une revue de chimie, avec un collègue américain qui est de Seattle. Et donc lui s'occupe des États-Unis et de l'Australie, et je pense aussi du Japon, tandis que moi je m'occupe de l'Europe, de Russie et de la Turquie. Tandis que, bon, avant, à nous deux, on s'occupait de l'ensemble, mais avec le boom qu'il y a eu en Chine ces dernières années, nous avons dû. Vraiment, les Chinois commencent à saturer, saturer réellement les revues scientifiques par des articles et des articles et des articles. Donc, on a dû nommer un éditeur, un associé pour la Chine. Il s'occupe spécifiquement des articles chinois. Je suis José Luis Burguera, c'est pour l'Amérique du Sud. Donc là aussi, on a. Parce que bon, nous traitons globalement 3500 articles par an pour notre revue. Alors peut-être aussi pour le facteur. Moi je rejette des articles que je reçois, 50% des articles européens. Gary Christian, avec les États-Unis, à peu près le même taux de rejet. Tandis que la Chine, c'est 75 à 80% des articles sont rejetés. Donc c'est un pays émergent. Donc il commence à se rendre compte de l'intérêt de publier. Il y a aussi l'appât du gain, comme je vous l'ai dit. Puis bon, ils doivent s'adapter aux règles de bonne pratique et aussi avoir les équipements. Mais donc, la qualité scientifique ne suit pas toujours. Mais ça avance à grands pas, en tout cas. Donc, si on commence par le titre, donc comme je vous l'ai dit, il doit être accrocheur. Avoir des mots-clés intéressants dans le titre inventer un nouveau terme dans un titre n'est pas nécessairement mauvais. Par exemple, vous pouvez ici, par exemple, des termes comme nanobodies, ce sont des anticorps tout petits qui sont des nanos, ou bien des chromobodies. Donc quand nous on voit ça en tant qu'éditeur, on se dit qu'est-ce que c'est ? Ça pourrait être très intéressant. Ce mot est très alléchant, chromo, ça veut dire qu'il met de la lumière. Donc, il a fixé cette personne a fixé des protéines fluorescentes sur des anticorps tout petits, minuscules. Et donc, ben là, ça pourrait être intéressant. Et effectivement, grâce au fait que cet auteur arrive avec des mots comme ceci, ben il arrive à le publier dans Nature. Sinon, Nature ne s'y intéresse même pas. Donc, l'éditeur, dès qu'il voit ce genre de. Il le rejette, ou quand il voit ça, ça peut être très attrayant. J'ai jamais entendu, donc on va l'envoyer. Et puis c'est vraiment intéressant. Donc si vous mettez nano chromo body, ce serait peut-être encore mieux. Hein. Donc le nano, et ça c'est extrêmement intéressant pour l'instant. Et tout ce qui est en rapport avec l'ADN également. Donc contenu exact, s'il vous plaît. Évitez le jargon technique que personne ne pourrait éventuellement comprendre. Donc le résumé, simple à comprendre, parce que d'abord l'éditeur qui reçoit le résumé. Moi, je regarde le titre et puis le résumé. Et puis, en fonction de ça, je l'envoie à des lecteurs ou pas. Donc, il faut qu'il soit assez simple à comprendre. Et il doit être complet. Il ne doit pas être que qualité. Je dois l'avoir mis quelque part. Il doit être quantitatif, c'est-à-dire qu'il faut éviter des termes « nous avons mesuré à des concentrations très faibles » ou « les méthodes sont rapides ». Ça, ça ne veut rien dire du tout. Déjà dans votre abstract ou dans votre résumé, soyez déjà quantitatif, soyez précis. Nous avons des limites de détection, de sensibilité, ou nous avons des vitesses d'OTAN, des cinétiques d'OTAN. Donc donnez déjà des informations quantitatives. Le qualitatif, ça n'est inutile, c'est totalement inutile. Ça, il faut éviter. Il y a beaucoup de gens qui veulent se mettre en évidence en disant c'est tout nouveau, c'est la première fois, first ever. Ça, il faut vraiment éviter parce que vous n'êtes pas sûr que c'est nécessairement. Il faut avoir fait une bonne étude complète de la littérature, ce qui n'est pas évident. Il y a des moteurs de recherche qui sont fournis par Elsevier, qui sont puissants, mais il se peut que vous n'êtes pas le premier. Et il faut savoir donc qu'un de vos collègues, quand je dis collègues, ce sont des gens, des scientifiques dans d'autres pays, ils seront invités à analyser, donc il faut que ce résumé leur soit accessible et attrayant. Donc les mots-clés, ça c'est important aussi, ils vont devoir être indexés. Abréviation, garder les abréviations connues, bien sûr, ADN, ça c'est très... Et donc, consultez toujours les instructions pour les auteurs. Donc, quand vous rédigez votre article, la première phrase, les premières phrases en tout cas, c'est comme dans toute écriture, c'est le plus difficile à mettre sur papier. Donc, essayez d'écrire comme vous le pensez, d'abord. C'est la plus... Donc, vous dites, qu'est-ce que je vais formuler la phrase comme ça, ça. Non, faites pas ça. Essayez d'écrire comme vous le parlez, comme si vous devez parler à quelqu'un. Écrivez-le comme ça, même si c'est tout à fait à côté de la plaque. Vous y reviendrez après, vous le travaillez, etc. Donc, votre travail se fait progressivement, lentement, mais sûrement. Mais si vous attendez trop, vous allez peut-être même être tout à fait dégoûté. Donc, mettez ça sur votre feuille comme vous le pensez, comme vous l'entendez. Et dites d'emblée pourquoi... Dans votre introduction, pourquoi ce travail est important? Il y a autant de morts dans un pays où la pollution devient extrêmement dangereuse, ou bien il y a ceci qu'il faut absolument démontrer, etc. Soyez très frappant dès le départ dans l'introduction aussi. Identifiez le problème rapidement. Bien sûr, situez aussi votre contexte, le contexte de votre travail. Ça, c'est important, parce que si vous ne le situez pas, immédiatement, on va se rendre compte que cette personne ne connaît pas le sujet. Si vous ne situez pas, c'est que vous ne maîtrisez pas l'ensemble. Et donc, on va se douter que la personne présente quelque chose, mais ne sait pas ce que ça a déjà été fait ou existe par ailleurs. Donc là, bien présenter l'état de la situation dès l'introduction. Des références appropriées. Souvent, on a tendance à oublier, on prend les récentes, mais on oublie les premières. Or, ce sont souvent les premières qui ont été à l'origine du concept. N'oubliez pas donc ceux qui sont parvenus à démontrer une méthodologie, un concept. Il faut les citer, je trouve. Ce n'est pas bien de ne pas les citer. Si vous ne prenez les récents et les vôtres, peut-être, ça c'est tout à fait selfish. Donc ça veut dire que vous considérez, vous ou vos amis, qui les meilleurs dans cette discipline, et vous ne citez pas les auteurs originaux. Bon, bien sûr, on va peut-être trop citer Einstein, mais bon, pourquoi pas, hein? Pourquoi pas citer Einstein? C'est pas grave de citer Einstein, hein? Quel est votre objectif? Bien sûr, donc il faut l'indiquer dès la partie. Et faites attention, dans votre introduction, vous pouvez critiquer le travail des autres, mais faites attention, il ne faut pas le dénigrer, c'est-à-dire, il ne faut pas dire, ils sont pas bons, cette équipe, ils ne savent pas faire leurs travaux correctement, etc. Parce qu'il se pourrait que l'éditeur les envoie à cette équipe pour référer votre article. Donc déjà ici, dans l'introduction, vous n'attendez pas la fin. N'écrivez pas un article scientifique comme un roman. Un article scientifique, ce n'est pas un roman. On se dit, on va amener le lecteur à... Et à un moment donné, voilà, il trouvera qu'en finale, regardez, on a découvert. Non, d'emblée, dites ce que vous avez découvert. Et comme ça, on aura beaucoup plus facile à comprendre votre texte. Ce n'est pas un roman, hein. Ne vous trompez pas. Ce sont des erreurs qu'on fait quand on commence à rédiger des articles de jeunesse, comme je dirais. On a tendance à amener le scientifique vers le résultat. Non, non, non. Vous pouvez déjà commencer d'emblée à dire, voilà, c'est vers là qu'on ira. Et puis, le scientifique, le lecteur va beaucoup plus facilement comprendre vers où vous allez. Et c'est très, très important. Donc, voilà, c'est ce que je remets ici. Ce n'est pas un roman. Ne tenez pas. Ce n'est pas du Da Vinci Code. Hein. Matériel et méthode. Bon, donc ça, c'est un peu boring, comme on dit en anglais, mais il faut le faire correctement. Donc, dans votre matériel et méthode, vous le devez détailler, on l'a dit tout à l'heure, vous devez le détailler de manière à ce que quelqu'un d'autre puisse reproduire vos résultats ou les revérifier d'une manière ou d'une autre. Ça peut prendre des pages, c'est un peu gênant, mais parfois, vous pouvez, si vous avez déjà, par exemple, publié le matériel et méthode dans une autre revue, il vous suffit de référer par rapport à ça. N'oubliez pas que si vous rédigez votre thèse, ça dépend un peu comment sont faites les thèses, mais vous pouvez parfois tout simplement mettre vos articles dans la thèse et reprendre une introduction générale de votre thèse. Et puis les articles seront décrits là. Si dans vos articles, votre matériel et méthode est bien, bien, bien décrit, vous n'avez plus besoin de le réécrire dans la thèse. S'ils ne sont pas suffisamment bien décrits dans votre article, ce qui est très très gênant pour les scientifiques qui veulent reproduire, c'est très gênant. Donc si ce n'est pas suffisamment bien décrit, vous devez alors le décrire dans votre thèse. Donc il faut de toute façon, c'est fondamental que quelqu'un puisse reproduire vos résultats. Donc n'essayez pas de cacher éventuellement une manip ou l'autre, il faut que ce soit le plus clair possible. Sinon vous ne serez pas, comme on l'a dit tout à l'heure, vous ne serez pas cité. Donc, d'où vient votre appareil aussi, quelle est la pureté de vos réactifs, par exemple, si vous utilisez des réactifs, il faut l'indiquer. Ça peut être fondamental dans la qualité de vos résultats, si vos réactifs sont purs ou non. Donc, parfois, il faut mettre, nous avons respecté les règles de l'éthique, nous avons travaillé dans des conditions sur des patients, et on a respecté ou sur des souris, etc. Ça a été, attention, peut-être des précautions particulières, il faut les citer, on travaille avec du cyanure, attention, sous des hôtes, etc. Donc, mettez toujours, il faut le citer, c'est important. Donc, il faut la soigner, cette partie, c'est parfois ennuyeux, mais il faut le faire correctement, c'est sûr. Donc le résultat, bien sûr, c'est le cœur du travail. Expliquer de nouveau encore, pourquoi pas ici, rapidement, la méthodologie, pourquoi vous utilisez cette technique-ci ou cette approche-là pour aborder vos résultats. Donc vous, en général, ça dépend un peu des revues, mais vous pouvez combiner résultats et discussions. Vous présentez vos résultats et vous discutez. Parfois, certaines revues demandent plutôt les résultats suivis de la discussion. Ça dépend un peu. Ce n'est pas nécessairement obligatoire de combiner le tout. Évitez aussi des répétitions, ça arrive souvent que des auteurs tentent de répéter souvent la même chose qu'ils disent, donc ça c'est important, bien se relire après. Donc organiser les données selon l'historique expérimental, on se dit aussi, tiens, on va respecter l'historique expérimental du labo. Non, pas nécessairement, pourquoi? Vous n'êtes pas obligé de respecter l'historique de vos manips. Parce que dans vos manips, vous avez été peut-être comme ça, vous revenez, donc c'est tout à fait incohérent. Donc, dans les résultats finaux de votre article, vous pouvez l'amener de manière la plus logique possible, comme si vous l'aviez fait d'emblée directement. Vous ne pouvez pas, la plupart du temps, on ne respecte pas l'historique expérimental. L'historique, vous faites des manips, vous revenez en arrière, je reviens. Si vous le rédigez comme ça, on ne comprendra pas du tout votre article. Donc, vous réassemblez les données en fonction de ce qui est finalement la meilleure façon de procéder. Les tableaux et les figures, on en reparlera. Donc, gardez les résultats essentiels. Il ne faut pas trop diluer, c'est vrai. Il y a des choses qui sont parfois bien connues. Mettez simplement une référence. Et puis, les auteurs ou les lecteurs, plutôt, vont pouvoir s'y référer. Donc, on peut ajouter... 3P. On peut rajouter des fichiers supplémentaires, si vous voulez. C'est autorisé par les revues. Hein? Donc, ça, il n'y a pas de problème. Parfois, ces fichiers ne seront pas imprimés, mais ils sont accessibles électroniquement. Elsevier l'autorise et d'autres maisons d'édition aussi. Alors aussi, on a tendance parfois à se dire, tiens, ça c'est vraiment un article qui serait un peu trop grand, je vais garder un petit peu et je vais refaire un autre article, quasi la même chose, mais je rajoute une. Ça c'est de l'autoplagiat, il faut y faire attention, on en reparlera. Essayez de ne pas garder trop de manip en réserve. Essayez de présenter le sujet d'une manière globale. Il vaut mieux un bon article, me semble-t-il, mais plutôt que trois moyens. Ça, c'est encore une façon de voir avec le problème du nombre de publications. Il faut un peu peser le pour et le contre, là. Ça dépend un peu. Donc, dans votre résultat, vous pouvez utiliser des sous-titres. Ça, c'est possible aussi, de manière un peu alléger votre article. Donc, dans la suite, ici, encore toujours dans les résultats, bien sûr, présenter... Vous pouvez, ici, bien sûr, dire que vos résultats améliore la qualité des mesures, beaucoup plus précis. La justesse de vos données sont meilleures que ce qui a été éventuellement décrit dans la littérature actuellement. Rappelez pourquoi pas l'originalité de votre approche de temps en temps, mais n'ignorez pas les autres. Même s'ils sont en désaccord avec vous, vous pouvez le dire. C'est pas grave, c'est des discussions scientifiques. On n'est pas occupé à se bagarrer, on dit simplement nos résultats ne sont pas, parce que peut-être les autres n'ont pas utilisé les mêmes conditions expérimentales. C'est pas grave, on peut, mais il ne faut pas les dénigrer. Vous pouvez... Il ne faut pas dire que ce n'est pas bon, les autres, c'est différent. Okay? Faites attention à ne pas les dénigrer parce que, je vous l'ai dit, les autres pourraient éventuellement être des lecteurs de votre revue. Donc, tenez-vous-en au fait. Très souvent, on a tendance à étendre les conclusions et déjà dans les résultats et extrapoler alors que les faits expérimentaux ou les faits de votre investigation ne permettent pas de le dire. Ça, c'est très souvent... Quand on entend des remarques des lecteurs qui disent, ils disent que ceci a été fait, mais ça ne s'y trouve pas. Donc, évitez les expressions qualitatives. Une température plus élevée, ça ne veut rien dire du tout. Ou une vitesse plus faible, ça ne veut rien dire du tout. Il faut donner la valeur précise de votre température ou le domaine. Donc, évitez le qualitatif. Donc oui, quand vous avez une discussion, très souvent... Assez souvent, du moins, on voit une foule de résultats sans discussion. Ça, c'est la preuve que la personne n'est pas du tout à l'aise dans le sujet. C'est faire des manies, mais ce n'est pas nécessairement pourquoi elle les a faites, et ils ne maîtrisent pas bien le sujet. Donc ça, c'est un signe de faiblesse de l'article et de rejet. Très souvent, il y a un risque de rejet. Et donc, à ce moment-là, les articles sont mal évalués. Les figures, donc, les figures, c'est intéressant. C'est vrai que ça vous donne immédiatement le contexte, la tendance de votre travail. Une figure, effectivement, ça résume parfois 1000 mots, mais quand même, limitez-en le nombre de vos figures. Donc, il y a des revues qui n'en veulent que 6. Nous, par exemple, moi, je suis assez souple, je dis entre 6, 8, 9, ça dépend un peu. Mais alors qu'ils sont malins, hein, ils essaient de, sur une figure, ils en mettent 3. Je n'appelle pas ça vraiment une figure. Des true figures, des vraies figures, c'est une en principe. Hein. Bon, mais enfin, il y en a qui essaient de jouer avec nos pieds, mais bon, il faut... Bien sûr, la lisibilité. Attention, la figure, vous pouvez les publier en couleur. D'ailleurs, sur le web, c'est toujours en couleur. Hein. Électronique, c'est toujours en couleur. Mais attention, quand on les imprime, c'est souvent en noir et blanc dans les revues. Ce n'est pas nécessairement compatible, la couleur, avec le noir et blanc. Donc, sur l'écran, vous allez voir des traces rouges, bleues, vertes, on voit très bien. Mais quand c'est imprimé sur un manuscrit, c'est tout en noir. Et là, vous ne les différenciez plus du tout. Donc, attention, bien pouvoir avoir... Les couleurs ressortent, mais le noir et blanc devrait aussi pouvoir faire la distinction. Donc, renseignez-vous bien sur les guidelines de la revue. Hein. Alors, les droites, ça, il faut éviter des droites dans des résultats scientifiques. Une droite peut s'exprimer par une équation de régression. Les droites, ça, je demande de supprimer. Une figure avec une belle droite, là, rapport concentration, mesure concentration, signal plutôt en fonction de la concentration. Donnez simplement l'équation et on épargne des pages. Oui, quand vous avez une figure, il faut quand même l'expliquer dans votre article. Très souvent, on met la figure et c'est tout, voilà. Et on n'explique pas la tendance du graphique, etc., ou de manière assez détaillée. C'est quand même important de bien expliquer dans le texte vos figures. Et la légende doit être succincte. Tampon, tac, il ne faut pas écrire dans la légende. Nous avons réalisé la figure. Non, non. La figure, la légende doit être succincte. Tampon, pH, un peu du scientifique court et bref. pH 5, vitesse, autant, tac, tac. Mais pas commencer à faire de la littérature dans une légende de figure. Très souvent, malheureusement, encore, on voit des légendes beaucoup trop longues. Si vous estimez que la légende est longue, ben mettez-la plutôt dans le texte. Les histogrammes, c'est très apprécié, vous montrez les tendances. Donc les résultats, comme je vous l'ai dit, pas trop chargés, les tableaux longs et ennuyeux, ça va, mettez pas. Éventuellement, mettez ça dans un fichier supplémentaire. Bien sûr, vous devez pouvoir, grâce aux figures et les tableaux, vérifier vos interprétations. Ça, et les statistiques, c'est aussi fondamental. Si vous avez des données, comparer des données ou les tendances, vous devez pouvoir utiliser des statistiques appropriées. Et alors, le problème des chiffres significatifs, en tout cas dans notre domaine, c'est fondamental. Certains fournissent parfois des résultats comme ça. 8,034 plus moins 0,135. L'erreur, en fait, se porte déjà sur le premier chiffre après la virgule. Tous ces chiffres-là sont entachés d'erreurs. Ça ne va rien. Donc, vous présentez le résultat comme celui-ci. Puisque la variabilité de votre résultat se porte sur le premier chiffre après la virgule. C'est comme ça qu'il faut présenter ce résultat. Bien sûr, donner le nombre d'expériences que vous avez faites. Mais ça embrouille tout. Okay? C'est le résultat correct de la manière dont il faut l'exprimer pour un certain nombre d'essais. Donc très souvent, on doit recorriger les auteurs. Les résultats, donc toujours dans les résultats, essayez, si vous trouvez une technique originale qui vous a permis de faire ceci, essayez éventuellement, c'est fortement, hautement recommandé, de venir avec une méthode de référence, une autre que celle que vous avez développée, éventuellement de référence, qui va permettre de confirmer vos résultats. Donc la justesse de vos résultats. Si vous avez un matériau de référence qui existe, c'est très important. Et vous aussi, donc, justifier la méthodologie par rapport à ce qui existe peut-être déjà en tant que référence. La conclusion, certaines revues ne demandent pas de conclusion. Moi, je trouve que c'est quand même bien de faire une conclusion pour n'importe quel type de travail, je trouve, même si ça ne prend que 3-4 lignes. Donc, très souvent, donc, l'éditeur va regarder le titre, l'abstract, le résumé, donc, et la conclusion. Et puis, en fonction de ça, on l'envoie à des lecteurs ou pas, ou on le rejette. Donc, c'est pour ça que la conclusion peut aussi... Et là, la conclusion, vous devez sortir du contexte du résumé. Ne remettez plus le résumé mais mettez éventuellement certains faits importants que vous avez découverts, ça vous pouvez l'impliquer dans. Donc, nouveau clair et précis, pas répéter le contenu du résumé, surtout pas, sinon c'est du doublon. Et là, vous pouvez mettre des perspectives. C'est pas mal de mettre dans une conclusion des perspectives, avec un petit danger quand même, c'est que des lecteurs pourraient dire, mais est-ce que vous ne pourriez pas déjà, dès maintenant, amplifier un peu les perspectives, refaire des expériences pour que ces perspectives soient vues. Donc, c'est un peu délicat. Vous pouvez mettre des perspectives, mais il vaudrait mieux qu'elles ne soient pas ou très difficiles d'atteindre en ayant les quelques mois à venir. Hein. Parce que sinon, ils pourraient vous demander de le faire. Les référies, hein. Les référies, c'est déjà arrivé. Donc, ne reprenez pas toute la liste, bien sûr, de vos résultats dans la conclusion. Donc, les références aussi, très importantes. La plupart des erreurs, en tout cas pour les mémoires de fin d'études qu'on a aussi à l'université, et aussi pour les articles, bon, c'est mal rédigé, c'est beaucoup d'erreurs. Bon, des virgules par-ci, par-là, aussi mal référencées parfois, mais bon. Citez les principales publications récentes, mais n'oubliez pas les originales. Je vous l'avais dit aussi, c'est important. Hein, par respect à celui qui a été le premier à avoir découvert ça. Donc, je vous dis, c'est pas grave de mettre une référence de 1954. Hein. Si c'était la première qui a orienté vers tout et qui a donné un essaimage vers le reste. Prenez pas trop de publications, de références et les autocitations, qui ont beaucoup tendance à le faire, bien sûr, pour augmenter leur facteur H, ou le citation index, c'est à éviter. Là, on voit aussi un peu la tendance des auteurs. Bon, vous pouvez écrire, quand vous écrivez à l'éditeur une petite lettre, donc on lit la lettre, mais elle doit être courte. Mais ce qui est intéressant quand même, c'est dans votre lettre de dire pourquoi vous pensez que ce travail mériterait d'être publié dans la revue que vous avez donc choisie. Donc la lettre doit être courte, mais une brève justification c'est demandé. Et là vous pouvez aussi dire que c'est original, c'est parfois même sollicité. Vous pouvez dire que c'est original, ça n'a pas encore été publié par ailleurs. Vous le reconfirmez là. Ça c'est bien. Ok? Donc vous pouvez, certains parfois disent, mais comme on l'a dit tout à l'heure, on n'en tient pas nécessairement compte. Hein. du moins dans la première. Dans la lettre, ils disent, voilà, attention, on aimerait bien que cet article soit publié assez vite parce qu'on va avoir une défense de thèse bientôt. Ça, nous, on s'en fout. Hein. We don't care. Mais il est clair qu'on va quand même peut-être essayer d'être derrière les référies pour aller plus vite, ou de suivre éventuellement, pour voir que ça ne traîne pas trop, que les lecteurs avancent correctement. Vous pouvez suggérer des réviseurs, donc des lecteurs. Vous pouvez les suggérer, 3 à 5, parfois plus, ça dépend. Et l'éditeur ne va pas, moi je suis pas systématiquement, mais pas du tout. Si ce n'est que quand je ne trouve pas de lecteur possible, alors je vais voir quels sont les lecteurs qui m'ont été suggérés par les auteurs. Évitez les amis, hein, les parents, hein, donc ça peut arriver. Hein. Vous habitez en Europe, vous avez quelqu'un, votre cousin qui fait de la recherche au Brésil. Et vous le citez, vous lisez en tant que. Vous voyez bien que c'est le même nom. Hein, vous, le même, enfin, parfois, c'est difficile. Hein. Alors, on regarde s'ils n'ont pas publié ensemble aussi. Hein. Donc, on fait ce genre d'investigation. Hein. On regarde si c'est la personne qui ont été suggérée comme lecteur, si ce sont des amis ou s'ils ont déjà travaillé ensemble. On fait vraiment une investigation, j'allais dire, policière. Hein. OK? Bon, alors, ça c'est assez difficile pour les francophones. Pour les anglais, c'est peut-être un peu moins difficile. Mais le langage scientifique doit être assez important. Donc, le présent, si vous utilisez le présent, c'est-à-dire vous pouvez utiliser le présent dans votre article pour des faits connus et des hypothèses. Donc, le average life of a honey bee is 6 weeks. Donc, la durée de vie d'une abeille est de 6 semaines. Et de 6 semaines. On ne peut pas dire « était » de 6 semaines en français non plus. Hein. On sait que c'est comme ça. Par contre, pour les expériences que vous avez réalisées, vous pouvez utiliser le passé. Donc, toutes les abeilles furent maintenues ou étaient maintenues à 23 degrés C. Okay? Vous pouvez mélanger dans votre même article donc le présent et le passé, mais mélangez-le correctement. Hein? Okay? Donc ça, c'est très, très important. J'espère que ça vous aidera à rédiger correctement. Et, les « is » et les « was hein? », pour nous, c'est très difficile quand on est francophone. Donc c'est important parce que ça vous donne une indication aussi de... On va dire, oui, mais je ne suis pas bon en anglais. Tout scientifique devrait pouvoir se débrouiller quand même assez correctement en anglais. Alors, maintenant, on arrive à la partie éthique. Donc, en éthique, il sera très important, comme vous allez voir par la suite, d'avoir un cahier de laboratoire. Daté. Votre cahier de laboratoire, c'est lui. Ça, c'est déjà une publication. Hein. Votre cahier de labo, c'est déjà une publi. Hein. Par exemple, si on doit retrouver la période à laquelle telle découverte a été faite, on peut aller jusqu'à votre cahier de labo. Hein. Puisqu'il est daté et il est signé. Et on peut éventuellement, au sein d'un, lorsqu'il y a une enquête d'éthique au sein d'une université, on peut demander vos cahiers de labo. Donc attention à que vos données que vous publiez soient en accord avec votre cahier de labo. Hein. N'ignorez pas le travaux des autres. Malheureusement, ça se produit très souvent. Parce que les référés vont le déceler. Hein. S'il y a des compétitions entre équipes, ça se verra. D'ailleurs, parfois, certains auteurs disent « N'envoyez pas mon article à celui-là parce qu'on ne s'entend pas trop bien. » Donc, il y a des commentaires comme ça. Hein. Envoyez-les plutôt à d'autres. On essaye de respecter ça. On sait qu'il y a des gens qui ne se supportent pas au sein d'un même pays ou parfois entre des pays différents. Et ils le mentionnent. Donc, n'ignorez pas les travaux antérieurs. Hein, parce que certains ont tendance à les ignorer de manière à faire montrer qu'eux étaient les premiers dans la thématique. Donc ça c'est et parfois ils s'approprient des résultats des autres, comme on va le voir. Donc attention aussi, évitez l'autoplagiarisme, on va en reparler, l'autoplagiat plutôt. Donc piller les données d'autrui et se les approprier. Ça existe fréquemment, hein, on va le voir. Ça se fait fréquemment, malheureusement. Donc par exemple ici, donc ça c'est un référé qui nous renvoie un commentaire en disant il faut rejeter cet article. Donc il ne comprend pas la justification rationnelle du travail. Et puis il met ici « The authors have disregarded the extensive research work spent on the extraction, blah, 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 that have been carried out during the recent decades. » Donc ils n'ont pas tenu compte de tout ce qui avait déjà été fait précédemment. Et donc ils ont quand même publié leur article. Donc ils ne sont au courant de rien finalement. Ou alors ils l'ont fait exprès pour ne pas qu'on le voit. Mais donc ça c'est un... Donc ils ont ignoré les travaux précédents. Donc c'est... Alors le conflit d'intérêts. Le conflit d'intérêts, ça se manifeste assez fréquemment. Ça peut se manifester. Donc, quand il y a, de manière excessive, c'est souligné, donc les résultats d'une étude est susceptible d'être influencé par un intérêt secondaire, comme le gain financier. Donc, qu'est-ce qu'on entend par gain financier? Ça peut être avec une firme pharmaceutique, par exemple. Vous êtes consultant pour une firme pharmaceutique et vous faites aussi la recherche dans votre laboratoire. Et tiens, c'est fort en rapport avec ce que la firme pharmaceutique déploie actuellement. Donc, il y aurait peut-être un intérêt financier du chef de l'équipe avec cette firme. Donc si vous publiez l'article, vous devez dire, éventuellement, certains précisent, je n'ai pas d'intérêt financier avec cette firme pharmaceutique, même si je travaille avec leurs produits ou sur leurs produits. On doit parfois, avec intérêt d'ailleurs de le préciser. Donc il y a parfois des bureaux d'avocats qui demandent des études, par exemple sur le bisphénol A, le produit assez dangereux maintenant. Et des avocats demandent à des scientifiques de faire des études éventuellement. Donc les scientifiques seront payés par les avocats. Et les avocats pourraient avoir tendance, comme on va le voir, à orienter votre recherche. Faites attention. Donc vous avez des consultants, des salaires. Donc vous devez parfois préciser que vous travaillez pour des avocats, mais que vous n'avez pas d'intérêt financier avec eux. Parfois, donc, l'engagement de personnel peut jouer dans ce cas de figure-là, évidemment. Le financement de la recherche va pouvoir jouer aussi. Au plus vous publiez, plus vous aurez de possibilités de financement de vos recherches. Parfois, vous avez des cadeaux pour partir à Tenerife ou des histoires pareilles. Donc, vous devez le déclarer. C'est mieux, ou leur absence. Donc, par exemple, ici, c'est pour vous montrer que dans le journal Le Soir de février de cette année-ci, donc, ce docteur-ci a été carrément donc, mis en évidence dans la presse parce qu'il a publié manqué d'éthique, il a publié des résultats demandés, sollicités par un bureau d'avocats. Et ces résultats étaient biaisés. Biaisés dans le sens où, donc d'abord, la problématique, c'était le vaccin. Donc, il a démontré dans sa publication, dans Lancet, que le vaccin rougeole, oreillon, rubéole provoquait de l'autisme. L'autisme chez les enfants. Et donc, on montre ici que, finalement, après avoir fait une étude sur 28 000 enfants, on trouve qu'il n'y a pas de relation entre les vaccinations et l'autisme. Mais lui, il avait travaillé sur 12 enfants. 12 enfants. Payé par un cabinet d'avocats, Dr. Wakefield, donc, en Angleterre, donc par un bureau d'avocats qui entendait poursuivre, bien sûr, après, les producteurs du vaccin. Ça, c'est clair, les avocats, ils vont attaquer les producteurs de vaccins. Et donc, en 2004, et nous sommes tous, nous sommes pharmaciens, j'ai des collègues pharmaciens ici, nous étions au courant qu'il y avait des bruits qui couraient, que les vaccins, se faire vacciner contre rubéole, rougeole et... et l'oréon, j'allais dire auréole, provoquer de l'autisme, on ne savait pas très bien nous-mêmes. C'est dangereux en tant que scientifique de réputation internationale de publier ce genre de résultats. C'est scandaleux, c'était presque un meurtre, hein, enfin, si on peut dire, meurtre scientifique. Mais donc vous voyez qu'il y a, lui il ne reconnaît pas, mais quand même très scientifique se désolidarise de l'article. Mais c'est quand même assez rare. Mais ce n'est pas si rare que ça. Il y a quand même des... Il y a eu en Allemagne, il y a eu en Angleterre, aux États-Unis. Donc il y a, pour Elsevier par exemple, et d'autres revues, et d'autres, il n'y a pas qu'Elsevier, mais les autres maisons d'édition, mettent sur un article qui aurait éventuellement été identifié comme un plagiat ou fraude. Vous allez voir, je vous conseille d'aller voir sur Science Direct et taper Retracted. Vous allez en voir des milliers. Des milliers qui ont été retirés. Je vais vous donner des exemples. Donc on ne supprime pas, hein, mais si vous avez ça, c'est comme si vous avez un cachet sur votre figure. Hein, et c'est pas sympa. Hein. Donc faites attention. Voici, je vais vous donner quelques exemples. Donc un article a été retiré, de nouveau rétracte, donc il a eu cela. Et ici donc, parce qu'il y a trois règles d'éthique qui ont été outrepassées. Il y avait quelques collègues qui... This is not working anymore. Maybe there's another one here. It's not, ça va. Donc ici, donc quelques collègues ne voulaient pas être le superviseur, le chef de labo, ne voulait pas, apparemment, n'avait pas accepté d'être sur l'article. Et donc, apparemment, dans cet institut, il y a encore un contrôle interne d'institut quand on publie. Genre à l'ULB, il n'y a pas. Donc, ceux qui étaient les auteurs n'étaient pas correctement, l'affiliation n'était pas correcte, du moins que parce que certains résultats avaient été obtenus dans l'Institut de physique, plutôt que, enfin, moi, je n'ai pas voulu rentrer, j'ai un peu coupé ici, pour ne pas décrire l'endroit précisément. Et en plus, quelques collègues n'étaient pas d'accord d'avoir leur nom dessus. Donc, il y avait pas mal de règles. Finalement, ça a été retiré. Donc, les règles de base, on l'a dit aussi tout à l'heure à l'introduction, le même travail. En même temps, vous ne pouvez pas envoyer votre même travail dans deux revues. Ça se fait. Hein. Il y a des gens qui disent on ne savait pas. Vous ne pouvez pas envoyer le même travail, votre même article dans deux revues en même temps. Step by step, oui, mais pas en même temps. Ne pas dupliquer votre article, c'est-à-dire, même dans le step by step, et ça, vous allez voir des exemples après, il y a des gens qui inversent un petit peu le titre, mais l'article est le même. Plagier, c'est-à-dire prendre des résultats des autres et se les approprier. Et il y en a qui trichent carrément, qui inventent des résultats qui n'existent pas, avec une équipe qui n'existe pas. On va voir des résultats. On va voir. Donc, vous devez dire, est-ce qu'il est bien maintenant? Avant, on ne le faisait pas. Il y a 8 ans, on ne demandait pas. Mais maintenant, on demande spécifiquement aux auteurs de dire, par écrit, que ces données sont neuves, n'ont pas été publiées ou considérées par ailleurs. Attention, ici, un poster ou un abstract... C'est vrai que ça a été publié lors d'un congrès. On peut autoriser en général de reprendre des données qui étaient dans un abstract d'un congrès. Vous pouvez éventuellement le remettre dans les données d'un abstract. Mais c'est quand même une publication. Hein. On sait très bien, par exemple, si vous présentez un abstract dans une conférence et vous citez le nom d'un médicament ou un nouveau médicament, c'est une publication scientifique qui est une preuve de votre travail sur ce médicament. Vous êtes les premiers à l'avoir fait. Donc c'est quand même, il y a une autorité là assez importante, des droits d'auteur éventuels. Donc les short communications là, non. Donc une short communication, c'est déjà une publication qui se fait dans une revue et vous fournissez pas mal d'indications. Attention ici, il pourrait y avoir de l'overlapping avec d'un article plus étendu avec la short communication. Si vous reprenez des résultats de la short communication, vous devez les mettre entre guillemets parce que ça a déjà été publié. Et vous ne pouvez pas non plus reprendre des résultats très très longs, quelques lignes éventuellement. Attention. Donc, On a déjà trouvé des doublons après acceptation. Donc, comme je vous l'ai dit, les articles sont publiés. Et ce n'est qu'après que parfois des auteurs nous écrivent, attention, quelqu'un a publié le même article que moi j'ai publié il y a 20 ans. Donc, ce sont des cas qui nous arrivent. Bien sûr, nous avons des moteurs de recherche, vous voulez les écrire. Mais on nous dit parfois, on nous contacte en nous disant, voilà, il y a des gens qui ont publié des articles qui sont exactement le même que ce que j'avais fait il y a... Et donc, c'est dangereux. Par exemple, ici, un des auteurs avait publié... j'ai barré le nom. You say that the two papers submitted almost simultaneously, après un mois de différence, donc un to GPBA et un autre chez nous, are entirely different. Donc l'auteur dit, non, ils sont différents, je les ai envoyés un mois de différence, mais alors on l'a vérifié, non. Et il a tourné ça en rond, il a mis des figures, il a mis d'autres légendes, mais c'est exactement les mêmes résultats. Ça a été difficile à trouver, donc on doit réanalyser tout. Donc l'auteur de GPBA et nous autres, on a regardé, mais non. Donc, vous voyez donc, il n'en atteint tout. Ça continue. Donc, on ne savait pas qui l'avait envoyé, mais on nous avait dit, regardez, attention, quelqu'un a publié la même chose. Donc, ça a été publié, malheureusement. On verra quelles sont les sanctions qu'on prend. Donc, par exemple, ici, ça c'est ce que j'avais, moi, découvert par hasard. Voici la synthèse d'un dérivé, pyranol, polyacrylamide, machin, chelating fiber, pour l'analyse... or, mercure, plomb. Et ceci, c'est exactement le même titre, mais autrement, présenté autrement. Or, mercure, c'est palladium ça, c'est PD, hein, palladium, oui, pas PB. Atomic emission, ici, il rajoute d'autres termes dans le titre pour ne pas qu'on puisse retrouver éventuellement cet article-ci. Mais par hasard, on l'a trouvé. Vous voyez, et on a contacté, il a dit non, c'est pas la même, c'est exactement la même chose. Donc des travaux quasi identiques, ici encore, ça a été rejeté heureusement avant qu'il soit publié. Donc similar to several other papers from this group, lack of novelty, etc. Donc le plagiat. Donc le plagiat, ça c'est bien sûr utiliser des données d'autrui et se les approprier comme étant les siennes. Ça, c'est extrêmement dangereux également. Et l'autoplagiat, c'est soi-même de se répéter ses résultats sans citer les articles précédents. On peut le faire, mais mettre des guillemets et quelques-uns seulement. Autoplagiarisme, donc, voici par exemple, ça a été retiré. Donc, de nouveau, on a rétracté cet article-ci parce que plusieurs parties importantes ont été reprises dans ce journal, dans un autre journal, en 2005, et ils ont voulu malheureusement on s'est rendu compte trop tard que c'était quasiment le même article en plus, parce qu'on a contacté la personne pour est-ce que vous êtes d'accord avec le fait qu'on va retirer votre article. Je les ai contactés, les Égyptiens, ils m'ont dit non, c'est différent. J'ai revérifié, il n'y a quasi pas de différence. Et donc en plus j'ai recontacté parce qu'il y avait deux auteurs italiens qui étaient dessus aussi. Est-ce que vous êtes d'accord avec la procédure de rétraction? Eux ont dit, mais nous, on est au courant de rien. On ne savait même pas que cet article avait été soumis par les Égyptiens. C'est vrai qu'un des Égyptiens a fait une thèse, un post-doc en Italie, et il est retourné en Égypte et il a refait encore un article sans mettre, et en mettant les noms des professeurs italiens qui ont voulu alors, et ont dit ensuite, non, nous, on se retire de cet article, on n'en a rien à voir avec ça. Vous voyez, il faut faire très attention. Certains auteurs mettent des noms de scientifiques sans leur demander leur avis. Encore un autre, l'éditeur demande, donc par le même auteur, ça a été de nouveau duplication, etc. Alors ici, donc de nouveau, plagiarism and misconduct. Donc il y avait là, on contacte chaque fois les éditeurs, les auteurs, pardon, et ensuite... On relit leur explication et qu'ils ne sont pas, ici de nouveau, on n'est pas satisfait avec leur explication. Self-plagiarisme, et ils ont donc violé certaines guidelines du journal. Donc ensuite, nous avons des listes noires. Nous avons des listes noires d'auteurs qui circulent entre les éditeurs d'une même discipline. Donc les journaux de chimie analytique, on en a à peu près une vingtaine. Eh bien, on a une liste noire qu'on garde un peu en secret. Les personnes sont une fois pour toutes identifiées comme des mauvais auteurs. Duplicate, voilà. Ça, c'est il y en a qui s'amusent à prendre des résultats de différents journaux pour un peu masquer le tout, mais donc il y a des moteurs de recherche qui permettent de voir qu'il a pris des doublons de différentes revues comme Current Opinion, vous voyez. Voici, il y a d'autres, ça c'était assez comique parce que là c'est nous qui l'avions identifié. Non, on ne l'avait pas identifié, quelqu'un nous l'avait dit, attention, voilà un article qui est le même. Donc voilà, ça a été donc publié dans Talenta en 2004. Je vais barrer le nom des auteurs. Donc ici, ils ont développé une électrode pour mesurer du fer 3. Avec un graphique où ils parlent du chrome. Ça c'est chrome 3 et fer 3. En fait, on s'est rendu compte que dans le copier-coller, quand ils ont triché, ils ont copié-collé d'une revue d'il y a 15 ans où ils avaient mis du fer 3. Mais ils ont oublié de mettre du blanc ici pour cacher. Donc tout était plus ou moins assez sensé. Et quand on a vu ça, on s'est vu qu'il s'était tout à fait... Et donc il était assis dans son bureau et il a écrit l'article sans faire de manip. Enfin, le fer 3 et le chrome 3, ça se comporte plus ou moins de la même façon. Il s'est dit, moi je vais faire une électrode au chrome 3. On y verra du feu. Mais il avait oublié de masquer ceci. Ici aussi, développer des électrodes pour des médicaments. Ici, c'est une électrode qui a été développée pour un médicament MD, et l'autre, c'est l'éphédrine. C'est exactement la même chose. Pile poil, c'est impossible. Dans un domaine scientifique, quand on développe dans deux laboratoires différents des électrodes pour des médicaments différents, c'est impossible d'avoir exactement la même chose. Mais pile poil, hein, on s'est triché. Il a dit non, mais nous, on sait que c'est triché, c'est impossible. Donc c'est des triches parfois difficiles à identifier. Alors ici, ça c'était le summum. Donc ça a été publié récemment dans Chemical Engineering News, donc par l'éditeur en chef Gary Christian de Seattle. C'est lui qui est parvenu finalement à trouver le gros problème. Donc un chimiste en Inde a publié plus de 70 papiers, tous inventés. Les gens n'existent pas dans le labo. Les appareils non plus. Donc comment est-ce qu'on a pu faire ça? Donc, il en a publié 9, 7 rejetés, 3 acceptés, donc 3, 2 ont été acceptés, mais quand même, donc il parvenait à faire accepter des articles, et puis finalement, on s'est donc rendu compte qu'il y avait trop de problèmes avec cette personne. Heureusement, on connaît des scientifiques indiens qui se sont mis en rapport avec le recteur de l'université là-bas, et le recteur de l'université nous a répondu que cette personne est toute seule dans son labo, et qu'elle n'a que quelques appareils, et que tous les appareils mentionnés, la plupart des appareils mentionnés n'existent pas. Aussi, par exemple, le genre d'article. Vous allez voir dans Elsevier. Je le mets le nom parce que celui-là, son nom est arrivé partout. Donc vous regardez Retracted. Tout ceci, ce sont des noms de personnes qui n'existent pas. Ou des étudiants qui sont peut-être passés dans le labo, fait un petit mémoire, etc. N'existe pas. En attendant, il a été promu professeur. Donc maintenant, évidemment, il y a des actions contre lui. Donc, il dit que non, il dit qu'il va avoir ses avocats qui vont nous attaquer, etc. Bon, ouais. Donc, mais les autorités de l'université ont pris des actions. En fait, ce qui se passe, qu'est-ce que l'université fait? Elle ne lui donne plus d'argent pour faire de la recherche. Et donc, il est tout à fait déconsidéré dans son université, mais il ne jette pas à la porte de l'université. Donc, il y en a encore ici, data irregularities. Bon, je vais passer un peu, je ne sais pas encore. Encore 5 minutes, oui, tout à fait. Donc, bon, les plagiats, il y en a tout plein, hein. Donc on peut retrouver combien de mots ont été plagiés aussi. Hein. Vous voyez, il y a des moteurs de recherche. Hein. Oui, paraphrase. Attention quand vous utilisez des paraphrases, mettez-les entre guillemets, hein, de la source. Vous pouvez les utiliser, mais elles ne doivent pas être trop longues. Ça, je vais passer assez vite. Oui, les actions. Donc, s'il y a un problème, on l'annonce publiquement, Retracted par exemple, mais on contacte quand même toujours l'auteur en lui disant, on suspecte un problème chez vous, vous pouvez justifier pourquoi vous avez envoyé cet article deux fois chez le même éditeur, etc. Donc on leur pose des questions et on attend leur retour. Parfois ils disent, oh je ne savais pas, je ne savais pas que des étudiants de mon labo avaient envoyé deux fois le même article chez vous, ou bien dans des revues différentes. Attention, donc il faut faire attention. Il y a quand même une procédure à respecter avant de mettre quelqu'un comme ça au banc des accusés, je dirais. Donc l'éditeur coopère, bien sûr. Après, nous envoyer une lettre aux autorités de l'université, aux correspondantes. Ici, à l'ULB, nous avons d'ailleurs un conseil à l'intégrité. Donc François Dubuisson, qui est un avocat, licencié en droit plutôt, Élie Kogan de la faculté de médecine et Yves Geertz de la faculté des sciences, sont les trois personnes qui veillent à l'intégrité en termes, par exemple, de publication, plagiat, etc. Vous pouvez éventuellement, s'il y a des problèmes, être convoqué par ces personnes. Heureusement, il y a aussi des possibilités. Il se peut qu'on ait publié des résultats scientifiques et deux, trois mois après, ou un an après, on se rend compte, zut, si on avait fait cette expérience-là en plus, on aurait peut-être pu se rendre compte que ce qu'on avait publié avant ou essayé avant n'était pas correct. Donc il y a des gens qui nous contactent et demandent de retirer. Donc à la demande de l'auteur, par exemple ici, ils ont refait les manips, ils ont peut-être fait un peu plus d'expérience. Et ils se rendent compte finalement que les conclusions réalisées dans le premier article n'étaient pas valides et donc ils préfèrent qu'on leur retire cette revue. Donc il y a un aspect, et ce n'est pas dégradant hein, de dire que ce n'était pas bon avant, ce n'est pas un problème ça. Au contraire, ça montre que vous êtes, vous posez des questions et que vous remettez en question régulièrement. Donc ici de nouveau, le premier auteur... avait fourni des expériences incorrectes et ils se sont rendus compte, peut-être souvent un post-doc qui vient ou un qui part, etc., celui qui suit se rend compte que le premier avait fourni des données, enfin on ne sait pas exactement ce qui s'est réellement passé, mais donc de nouveau ici, on souhaite que l'article soit retiré parce qu'il y a eu des problèmes au niveau du labo. Donc de nouveau ici l'auteur demande qu'on le retire. Donc, de nouveau, subsequent manipulations ont permis de, voilà, we apologize for this error, etc. Donc, ils ont refait des manips et ils se sont rendus compte que ce qu'ils avaient publié avant n'était pas correct. Ça, c'est on peut le faire. On peut mettre cela comme raison du retrait de l'article. Voilà, de nouveau, ici, un auteur se rend compte, malheureusement, c'est peut-être le directeur du labo, qu'un de ses étudiants avait utilisé des données d'autres articles sans les mentionner et il préfère maintenant qu'on le retire. Donc c'est l'ambiance qui règne dans le labo, elle n'est pas bonne. Hein. Donc vous avez des moteurs de recherche. Certains sont payants, comme celui-ci n'est pas mal du tout. Crossref.authenticate.com, on en a parlé. Ça nous permet de... C'est payant, mais c'est intéressant. Vous avez aussi ici, quand vous rédigez un mémoire, par exemple, ou un article, vous avez aussi les authors... Comment ça s'appelle? Attendez, je vais noter ça. J'ai oublié. Je crois que ça s'appelle le Student Writer. Ça vous coûte peut-être 7 euros, mais grâce à ça, vous avez écrit votre article et vous lancez le moteur de recherche. Ça vous permettra de voir si dans votre article, il y a des paragraphes qui auraient déjà éventuellement ou similaires qui existent dans la nature ou dans la littérature. Ça vous permet de savoir dans quelle mesure ce que vous avez écrit n'est pas un plagiat ou ne reprend pas des données qui existent déjà par ailleurs. Donc c'est aussi un bon moteur de recherche scientifique. Okay. Donc il y en a pas mal des moteurs de recherche que nous utilisons et que d'autres utilisent aussi. Voilà, ça c'est toutes les références. Voilà, donc moi je vais